IMO, le congrès immobilier FNAIM, le rendez-vous de tous les professionnels de l'immobilier, en partenariat avec Axéo et Procivis sur Radio IMO.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, en direct de IMO, le congrès FNAIM. On vous fait vivre cet événement pendant 2 jours. Ravi de tout vous dévoiler. Je suis avec Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
Bonjour Bérénice et bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Mieux, ce serait de la gourmandise.
Et nous avons un invité de prestige, Philippe Briand, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour Sylvain.
Bonjour Philippe Briand, on est très heureux de vous recevoir.
Et oui, président du groupe Arche, ravi de vous recevoir. Un petit mot peut-être pour commencer sur le congrès, vous venez d'arriver... Voilà, quelle est votre impression? Il y a beaucoup de monde ce matin.
Il y a beaucoup de monde et alors il y a une ambiance sympa. Parce que tous les gens que vous avez ici, ce sont des entrepreneurs. Petits, moyens, gros entrepreneurs. Enfin, des gens qui ont mis leur vie pour créer leur petite entreprise. En plus, ce sont des entreprises de service. Et dans des entreprises de service, il y a beaucoup d'humains. Ce qui fait notre travail, c'est la relation humaine. C'est la confiance que mettent les gens entre nos mains. Et donc toutes ces femmes et tous ces hommes sont des gens de grande qualité et de qualité généreuse, à la fois pour leurs clients, mais aussi pour leurs équipes. Alors ça peut que bien se passer.
C'est même des tiers de confiance pour leurs clients.
C'est des tiers de confiance. C'est un métier qui a longtemps souffert d'une image, j'allais dire, un petit peu sulfureuse. On avait l'impression, finalement, que de faire la transaction immobilière, c'était un peu Jean-Paul Belmondo. Vous vendez, vous achetez, toc toc badaboum, l'affaire est faite. Eh bien non, c'est pas seulement ça. De déterminer le juste prix de la vente pour le vendeur, de déterminer le bien à acheter pour l'acquéreur, de voir son financement, de voir comment est-ce que l'on construit tout ça. Et tout ça, ça demande des gens qui sont très professionnels et très disponibles. Et donc l'immobilier a repris les lettres de noblesse, notamment avec les métiers de gestion. Et puis la FNAIM a inventé une nouvelle enseigne, un petit peu comme les notaires. Et je trouve que ça a un côté très rassurant pour les clients. Ça dit bien que nous sommes tiers de confiance, ça dit bien que nous détenons de l'argent pour eux. Oui. C'est une responsabilité importante et ça a redonné un peu de lustre à la profession.
C'est un vrai sujet en soi. Alors je suis content de vous l'entendre dire parce que bon, du côté politique, c'est pas exactement le même son de cloche dans la mesure où ces professions ont été sérieusement malmenées par une inflation normative, par beaucoup d'instruments finalement qui ont parfois un peu donné une image de l'immobilier trouble d'un point de vue politique. Je m'explique, notamment avec le rétrécissement du PTZ qui va maintenant s'élargir, on l'espère, si on a un nouveau gouvernement, mais aussi tout ce qui touche finalement à la notion de propriétaire dans ce pays. Est-ce que vous vous dites, vous Philippe Briand, que être propriétaire dans ce pays, c'est pas un gros mot, et que les Français plébiscitent toujours autant l'accès à la propriété?
Alors j'aime beaucoup votre expression, chez les politiques c'est pas le même son de cloche. Il est vrai qu'on pourrait en apparenter beaucoup à des cloches. C'est une tragédie que de vivre.
C'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
C'est une tragédie que de vivre dans un pays où les ministres se succèdent les uns les autres sans compétence dans le domaine qu'on leur confie.
Les ministres. Hein.
Et je suis très marqué, mais c'est quand même le haut de la tête, un gouvernement. Oui, c'est eux qui vont être chargés des nominations des autres. C'est le haut de la tête. Comment voulez-vous qu'on arrive à bâtir une politique concrète aujourd'hui quand les ministres, ils ont moins de 6 mois de durée de vie? Ils n'ont pas le temps de s'installer, de connaître les problèmes, parce qu'ils ne les connaissent pas avant d'arriver pour la plupart d'entre eux. On ne peut pas attendre de réformes. Vous savez, ce pays souffre d'une crise du logement comme il n'a jamais souffert depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut remonter aussi loin pour ça. Oui, les Français souhaitent tous être propriétaires. Parce que être propriétaire, c'est rassurant. Il n'y a qu'en France où on a confisqué le logement. En France, une famille sur deux est propriétaire de son logement et une famille sur deux est locataire. Alors, soit dans le social, soit dans le privé, mais de toute façon, c'est la même chose. Vous savez, quelquefois, le social a des complexités d'accès tellement fortes qu'on est obligé de les loger dans le privé parce que c'est plus simple. Donc, seulement une famille sur deux, si vous allez en Espagne, en Italie, en Grèce, dans tous les pays qui nous entourent. C'est 60-70%.
Alors moi en Allemagne.
Moins en Allemagne, mais pour des raisons particulières à l'Allemagne, qui a une dimension beaucoup plus industrielle, etc. Le logement n'est pas une de leurs fantaisies. Mmh. Mais franchement...
C'est surtout pas un pays de propriétaires. Hein. 70% de locataires en Allemagne. Hein.
Eh oui, mais
Ils n'ont pas la culture de la propriété qui a été inventée, je précise, quand même par la France.
Du tout. Mais la France, de ce point de vue-là, ne fait que reculer. Et je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai démarré dans ce métier et que j'étais syndic de copropriété, un jour dans la région de Touraine, à côté de Tours, à Saint-Pierre-des-Corps, ville communiste, cheminote, ouvrière, etc., trois gros ensembles immobiliers qui appartiennent à une société d'HLM de Paris. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement d'argent qu'ils ne pouvaient plus investir sur Paris, donc ils investissaient en province. Cette cité, on l'a vu dans les faits d'actualité dans les années 85-90, avec les parkings, les voitures en feu, les poubelles, la drogue, la difficulté et tout. Si bien que cet office de logement public a décidé de vendre les logements et les ont vendus à vil prix. Il fallait s'en débarrasser. Et donc, des gens simples ont pu acheter des logements, T3, T4, T5... à 40, 50, 60, 70 000 francs. Si bien que le montant de leur loyer, de leur remboursement, n'était pas plus cher que le montant du loyer. Vous savez ce qui s'est passé ? Quand ils sont devenus copropriétaires, il n'y a pas eu un gardien, il y en a eu trois. Ils ont commencé par investir pour faire des pots sécurisés avec des sas. Sas pour les voitures. Un éclairage intensif de la cour avec des détecteurs de présence. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tous les nouveaux propriétaires descendaient aider les gardiens en bas avec des manches à balai à la main. Aujourd'hui, c'est une résidence qui est très fréquentable et qui conforme à la moyenne des prix de l'immobilier.
En fait, ce que vous dites...
La différence, ils sont devenus propriétaires.
En fait, ce que vous dites, c'est qu'en devenant propriétaire, quelque part, on endosse aussi une responsabilité.
Et oui. Du coup, puis on fait attention.
Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui
le
pensent. Philippe Briand, comme je sais que votre temps est compté, vous êtes très actif sur pas mal de sujets. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui vous êtes numéro un en France sur plein de sujets, sur la distribution immobilière, sur l'assurance en produits immobiliers, sur le déménagement. Vous êtes maintenant en digital. Vous avez été pionnier dans la gestion aussi de l'organisation informatique de vos sociétés. C'est assez impressionnant. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait même dire...
Merci.
Je ne sais pas si vous avez l'occasion, Bérénice, mais allez visiter les installations informatiques du groupe Arche. C'est Fornox. Hein, c'est, voilà.
Bah avec plaisir.
C'est la Fédérale Réserve. Alors, vous avez construit pas à pas. Je rappelle que vous avez démarré avec rien. Même le rien, vous ne l'aviez pas au départ. Comme dirait Raymond Debos, on démarre avec rien et trois fois rien, c'est déjà quelque chose. Et vous avez construit aujourd'hui une entreprise multipolaire qui est une entreprise typiquement familiale, que vous contrôlez à 99% si c'est pas 100%. Je trouve ça extrêmement salutaire dans un monde dans lequel on a financiarisé, on a des fonds d'investissement dont on connaît pas la provenance, qui a mis la main sur beaucoup d'organisations aujourd'hui immobilières. Et vous venez, c'est incroyable, de vous doter indépendamment de ça, aujourd'hui, d'un des principaux moteurs de recherche immobilière, qui a été une très belle réussite en termes d'audience, puisque je suis pratiquement 17 millions de visites par mois sur Bien Ici, qui est à la troisième marche du podium, je le rappelle, qui est né en 2015, à la suite d'une pensée entre Jean-François Buet et Jean-Philippe Ruggieri, Jean-Philippe Ruggieri, directeur général de Nexity. Où s'arrêtera Philippe Briand parce que je lis la presse et on dit, voilà, l'empire de Philippe Briand, le développement du groupe Arche, vous avez tout aujourd'hui, c'est ça l'idée?
Bon, c'est pas ça l'idée, il y a une complémentarité. Comme vous le dites, c'est l'entreprise familiale, je suis là avec mon fils d'ailleurs, qui
Absolument.
Travaille avec moi.
Harold Briand, qui est d'ailleurs le patron d'une des lignes métiers du groupe aujourd'hui.
Oui, il a une ligne métier, il est patron de Citia en Belgique. Voilà, qui développe aussi, il vit son aventure et c'est formidable. Alors pourquoi Bien Ici ?
Mais Citia en Belgique, c'est aussi une acquisition.
C'est aussi
Philippe
une acquisition.
Briand, hein, du groupe Nexity.
Oui. Mais pourquoi Bien Ici ? C'est parce que un jour, Jean-Philippe Ruggieri, à qui je rends hommage, que vous avez cité, Alain Dina et moi, on dîne avec des hôteliers et on s'aperçoit que les hôteliers nous confient leur malheur. Il y a une société type Booking, il y en a d'autres, qui viennent, qui demandent une annonce pour 3 euros, 4 euros, 5 euros, 5%, 10%, 20%. Et donc aujourd'hui, qui gagne de l'argent dans l'hôtellerie, ce sont ces sites et ce ne sont plus les hôteliers.
Très juste.
Vous prenez la situation de la France. Vous avez en gros deux sites qui étaient des sites très forts. Il y a Se Loger, groupe Axel Springer, et puis l'autre groupe, c'est Le Bon Coin. Bon. Et on commence la démarche, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. C'est là que nous, on a eu l'idée, avec Alain Dinin, à qui je rends hommage, de créer Bien Ici, pour dire il faut qu'on défende la profession. Et on l'a fait pendant des années, et aujourd'hui, comme vous dites, c'est 18 millions de fréquentations par mois.
Un outil pour la profession.
Un outil pour la profession.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, mais c'est l'outil de Philippe Briand ?
Bon, qu'ils ont qu'à d'aller acheter trois fois le prix chez les autres, moi ça me dérange pas. En gros, aujourd'hui, Bien Ici, sur 50% des départements français, on est premier. Mais grosso modo aussi, les prix de Bien Ici, c'est un tiers de ce que vous prenez chez Se Loger et chez Le Bon Coin. À peu près, parce qu'il y a des offres, etc. Donc, vous pouvez avoir le choix de payer plus cher parce que vous ne vous sentez pas bien, vu que c'est Philippe Briand qui a acheté ça. Et puis, vous avez aussi le choix de comprendre qu'en faisant ça, on défend la profession pour avoir des prix encore attractifs. Et que les agents immobiliers gagnent leur vie sur la location ou la transaction.
C'est important ce que vous dites.
Vous savez, ce qui s'est passé aux États-Unis, parce que de temps en temps, il faut sortir un peu de son bled pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez un grand groupe aux États-Unis dont le nom ne me revient pas.
Zillow,
voilà, merci. Qui s'est lancé d'abord en faisant ce type d'annonce, deuxièmement en disant aux professionnels, les annonces qui passent chez nous, on les conserve et on peut nous aussi intermédier dessus, et qui maintenant fait l'intermédiation directe.
Exact.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'un capitaine d'industrie et chez Se Loger et Au Bon Coin, vous avez des capitaines d'industrie. C'est des gens qui ont de l'appétit et qui veulent de plus en plus étendre leur business. Simplement, je pense qu'il y a une limite. Il faut que chacun fasse son métier. Et donc, si je ne faisais pas l'acquisition de Bien Ici, on va dire les choses, c'est Se Loger qui le faisait. Voilà, c'était ou Se Loger ou nous. Et pour dire les choses, la proposition de Se Loger, telle qu'elle apparaissait, était supérieure à celle que nous avons fait à Nexity. Et Nexity a respecté sa déontologie et ce qu'ils avaient dit au départ, c'est-à-dire de donner un coup de main à cette profession. En termes clairs, ils ont accepté de nous céder moins cher que ce qu'ils auraient pu vendre, simplement parce qu'on voulait tenir les engagements d'Alain Dinin et de Jean-Philippe Ruggieri. Ce qui me fait dire que c'est une boîte tout à fait estimable et que Véronique Bédague, qui en est à la tête, mérite respect et considération et remerciement de toute notre profession.
C'est une réponse très importante, Philippe Briand, parce que vous le savez, hein, vous le savez, c'est la question qui a été très largement posée et vous y avez répondu. Finalement, on a vendu à un professionnel en activité, un professionnel pérenne dans le temps, qui n'est pas un fonds d'investissement, qui n'a pas à rétrocéder des honoraires ou des dividendes à différents actionnaires dont on ne connaît pas la provenance. C'est-à-dire qu'en fait, dans la sauvegarde des métiers dont vous parlez, vous avez permis à la profession de s'organiser en pour. C'est la réponse qu'il fallait absolument convenir. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, bah, tant pis pour eux, c'est pas le sujet.
Non, mais ils comprendront si on prend... par la suite. Il y a toujours des aigreurs, quoi. Il y a naturellement, quand vous êtes une maison comme la nôtre, on a beaucoup de développement. Alors de temps en temps, on passe devant un autre pour reprendre une affaire, etc. Ça crée un sentiment, un peu de jalousie, d'agacement. Et faut le comprendre, et faut le respecter. Moi aussi, j'aime pas quand je rate une affaire, tout ça, je suis agacé. Mais c'est pas méchant, c'est une réaction instantanée. Et puis après, on prend le recul et on comprend son intérêt, puis l'intérêt de la profession. Et à ce moment-là, on adhère. Donc, j'ai pas de doute là-dessus. Si vous saviez, je suis stupéfait. Ce matin, vous le disiez, Bérénice, j'étais dans les couloirs, je regardais les uns et les autres, beaucoup de rencontres, je finis par connaître beaucoup de monde là-dedans. Le nombre de gens qui me disent, Philippe, pour Bien Ici, merci.
Ah oui.
Dernière question avec Bérénice. Souvent, quand on fait le point de fin d'année, on voit effectivement les volumes. Et bon, c'est les chiffres remontaient légèrement au mois d'octobre et de novembre, oui. Avec des signes plutôt positifs, faut le dire, avec un rebond. Patatras, premier sondage de début septembre qu'on a fait avec BFM Business, Sud Radio et Radio Immo, on voit que les porteurs de projets s'arrêtent. Et quand on leur pose la question, très simplement, aux Français moyens, bien en dehors de Paris, l'incertitude et le manque de confiance éminemment liés au climat politique. Vous qui avez été aux affaires, qui avez été caisseur à l'Assemblée, plusieurs fois député, maire aujourd'hui et un élu local, et vous défendez bec et ongle les élus locaux auxquels vous êtes très attaché puisque vous êtes maire depuis 1989 à Saint-Cyr-sur-Loire. Alors, outre le spectacle désolant que vous devez constater à l'Assemblée, dans le métier, on va dire que c'est un peu chaud en ce moment quand même.
Écoutez, alors deux commentaires, l'un sur le métier, l'un sur la politique. Je vais commencer par la politique. J'ai jamais connu de ma vie une période aussi minable. Je suis même rentré au gouvernement, j'ai été caisseur, comme l'avait dit, j'ai créé une métropole à Tours, je connais bien la vie publique. On est gouverné par des technocrates et des béotiens. Alors les technocrates ont été amenés par le président de la République, ils sont habillés d'une suffisance qui peut leur tenir lieu de pelage pour cet hiver qui s'annonce rigoureux. Et puis après, il y a les béotiens. Alors les béotiens, c'est ces gens que Emmanuel Macron a invité à faire acte de candidature en déposant leur CV
sur Internet,
sur le web. Donc, vous avez... avant, on commence par être conseiller municipal, adjoint, maire, conseiller départemental, régional, député. Donc, on connaissait toutes les fonctions, toutes les répartitions de tâches et tous les fonctionnements. Aujourd'hui, vous déposez votre CV et alors, en fonction de ce qu'il faut pour refaire une bonne moyenne d'âge, pour refaire un équilibre entre femmes et hommes et autres, maintenant, non, alors vous avez toutes vos chances d'être élu. Donc vous avez une assemblée qui est composée à 80 et quelques pourcents de gens qui ont un peu plus d'un mandat, rien de mieux. Donc ce sont des béotiens totaux. Un béotien, c'est un apprenti. Et puisqu'on vient d'inaugurer notre nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris, je dois vous dire qu'avec des apprentis, on n'a jamais fait un chef-d'œuvre. Donc ce qui est vrai pour les cathédrales est vrai pour la politique. C'est pas avec les apprentis que nous avons aujourd'hui que nous ferons un chef-d'œuvre.
Donc le responsable, c'est qui? C'est le chef de l'État.
Le responsable, c'est sa manière de faire de la politique qui est isolée de la population.
Mais désignons, Philippe Briand, la cause de ce délitement politique.
Bien sûr.
C'est le président de la République.
C'est le président de la République depuis un mandat et demi, voilà. qui est en rupture avec le peuple. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont massacré l'immobilier. Ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'était l'immobilier. Vous savez, la crise de l'immobilier aujourd'hui. Elle est fâcheuse, non pas pour nos chiffres d'affaires, pour si ça. On arrivera toujours à survivre. Mais dans un pays qui a besoin de 500 000 logements tous les ans pour faire face aux besoins de sa population, on n'en fait plus que 220 000, il en manque 300 000. Alors la première année, ça passe. La deuxième, ça se tend. Mais la troisième, vous êtes là avec des gosses qui ont réussi Parcoursup, qui ne trouvent pas de logement et qui renoncent à leurs études. 15% des étudiants, vous êtes avec des femmes qui sont avec des maris qui peuvent être violents, qui veulent se séparer. Absolument. Qui veulent partir et qui ne peuvent pas parce qu'elles ne trouvent pas de logement. Vous êtes avec des gens qui ont des offres de travail, qui sont en mutation et qui n'ont pas de logement. Vous êtes sur les parkings des supermarchés, vous voyez des filles dormir dans des caravanes ou des bagnoles parce qu'elles ne trouvent pas de logement. La crise du logement, c'est pas seulement une crise financière, c'est une crise sociale. Mais en plus, quand on faisait du logement, le premier à se gaver, c'est pas le promoteur. Le premier à se gaver, c'est l'État. Faut pas oublier que sur le prix de vente, ils prennent toute la TVA. C'est 20% sur toute la chaîne. Plus tout ce qu'il y a, c'est-à-dire les charges qu'il y a sur les salariés qui bossent dedans. Alors vous êtes là, tous les promoteurs sont à la ramasse. Pratiquement.
Ou la moitié.
On va dire ça comme ça. Enfin, les petits sont en train de disparaître. Et les régionaux ont une situation difficile. Les nationaux n'ont jamais rencontré cette crise, ils licencient à tour de bras, mais derrière, ceux qui construisent les bâtiments, eux aussi licencient. Ouais. Les sous-traitants, eux aussi licencient. Les architectes, eux aussi licencient. Et puis la filière d'apprentissage, tous ces jeunes-là, plutôt que d'être dans la rue, qui apprennent un bon métier, avec des bons ouvriers, avec des gens qui ont des valeurs, qui les redressent, qui leur redonnent une colonne vertébrale, qui leur dessinent un avenir, on peut plus en prendre, parce qu'il n'y a plus de travail. La crise de l'immobilier est une crise sociale d'une importance considérable pour un pays comme le nôtre, et nous n'en sommes qu'au balbutiement.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'il y a une incompréhension du gouvernement, du secteur de l'immobilier, mais aussi du comportement des Français. Vous l'avez dit, on vit de moins en moins nombreux dans chaque foyer. Ça, le gouvernement s'est dit, bon, bah, la natalité baisse, donc pas besoin de faire davantage de logements. En fait, il y a vraiment une incompréhension des comportements des Français. En fait, on vit de moins en moins nombreux dans chaque logement. Il y a une décohabitation qui se crée. Vous l'avez dit, il y a des étudiants, il y a des actifs qui ont besoin de voyager, d'être mutés, il y a le travail hybride. Voilà, on a l'impression que le gouvernement est déconnecté de ses concitoyens.
Pour preuve, le ministère de Bercy a publié un rapport dans lequel ils estimaient le vrai besoin de logement à 275 000. Hein.
Oui, mais... Ouais. Oui, mais
c'est ce que vous disiez, la dernière étude, c'est 500 000 à peu près.
C'est ceux qui ont estimé le nombre nécessaire de logements à Bercy sont les mêmes que ceux qui ont calculé le déficit budgétaire de 2024.
J'en étais sûr. Bien
on n'est pas à l'abri de moments difficiles. Mais je vais vous donner ce que vous dites, Bérénice, de dire oui, on pense que le nombre de personnes par rapport au logement, la taille, tout ça, et qu'il faudrait. Et en même temps, on fait toute une politique sociale pour dire il faut maintenir les personnes âgées dans leur domicile parce qu'ils sont mieux. Alors, de deux choses l'une, vous avez une politique cohérente et vous dites qu'il faut libérer des logements qui sont grands.
Bien
vous
sûr.
Prenez tous les vieux qui sont tout seuls et puis vous leur dites bah, maintenant, c'est plus votre place. Vous, vous allez en maison. Et c'est comme ça. Alors là, on libère du logement. C'est une politique, c'est pas la mienne. Je pense que c'est bien de pouvoir rester dans son logement. Je pense que même s'il n'y a plus votre conjoint ou qu'il n'y a plus votre gosse qui est là, de pouvoir être toujours dans le fauteuil du salon à écouter la pendule qui dit oui, qui dit non. Qui dit je vous attends.
Jacques Brel. Alors, les vieux. Ouais. Mais c'est, là, c'est, pour ceux qui se rappellent, voilà, c'est. Alors, juste, vraiment en une minute. Le marché, il est aujourd'hui dominé aussi par une politique de taux. Vous le savez, ça a rasé gratis pendant 15 ans. La BCE a annoncé successivement des baisses. Est-ce que le tout BCE, direction des taux, serait l'un des instruments essentiels pour faire repartir le marché? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe Briand, qui représentait plus d'un cinquième de la distribution de produits immobiliers français?
Alors, je vais vous dire un truc, Sylvain. C'est la première fois que j'ai acheté un appartement, j'avais 18 ans, et c'était une période qui était une période de forte inflation, et mon premier emprunt, je l'ai fait à 16%. Ça ne m'a pas empêché d'acheter, mais j'ai fait une bonne affaire, parce que s'il y avait de l'inflation, les loyers augmentaient régulièrement, et finalement, ça finit par s'équilibrer. J'avais un petit déficit foncier, et ça se conjuguait. La première des choses, c'est n'ayez pas trop peur des taux. Arrêtez de chasser le dixième de point de tout ça. Si vous avez une bonne affaire qui est bien placée, qui est au bon prix, prenez un petit peu le risque, rallongez la durée, mais ne ratez pas une bonne affaire. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième des points, c'est qu'il est grand temps que la BCE existe un petit peu, qu'elle soit pas tout le temps à la remorque des États-Unis. D'ailleurs, j'observe que les États-Unis ont d'ailleurs des taux supérieurs à nous, mais ils ont une machine économique qui est très supérieure à nous.
Elle a devancé la Fed, hein, la BCE.
Oui, c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est la raison pour laquelle la BCE peut se permettre d'aller en dessous de la Fed.
Exact.
Mais il faut qu'elle aille beaucoup plus en dessous, parce que le dynamisme des États-Unis, c'est autre chose que le dynamisme français. Vous savez, je me marre beaucoup de cette presse orientée que nous avons en France qui nous a raconté pendant des mois que Trump était un soudard, un crétin, un imbécile, un homme malhonnête, enfin bref, tous les maux de la terre que l'on peut concentrer sur un homme.
Que des vertus.
Ça a été fait, ce qui m'agace, parce que peut-être des choses vraies là-dedans, c'est pas mon sujet, ce qui m'agace, c'est que l'ensemble de la presse française court derrière la même image, sans discernement, sans esprit critique. Et pourtant, cet homme qu'ils ont décrit comme tel, il a été brillamment élu aux États-Unis. C'est l'une des plus belles élections de président aux États-Unis. Et je me marrais beaucoup en regardant samedi Notre-Dame de Paris, tout le monde l'accueillir, après avoir dit pique-pente de lui.
Après, vous êtes dur.
À bras ouverts.
Toute la presse ne l'a pas condamné.
C'est le bal des hypothèses. C'est générosité.
Toute la presse ne l'a pas condamné. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah.
Oui.
Pas toute la presse.
Oui, c'est vrai, il y avait CNews qui était un peu plus.
Valeurs actuelles également.
Oui.
On peut le dire.
On parle des bons auteurs.
On resterait bien évidemment une heure entière avec vous, Philippe Briand. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci à vous d'avoir accepté de parler sur le plateau de Radio Immo, auquel vous êtes très fidèle. Merci encore une fois. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Arche. Dans la ville, il y a un shérif et il s'appelle Philippe Briand. On se retrouve tout de suite après.
Immo. IMO, le congrès immobilier FNAIM, le rendez-vous de tous les professionnels de l'immobilier, en partenariat avec Axéo et Procivis sur Radio IMO.